Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Tout le monde se surveille, mais le périmètre d'action des uns n'est pas toujours celui des autres. Une voiture de la BAC circule au Bosquet, regard travelling à la recherche d'une interpelle. Des enfants pilotent un drone depuis le toit d'un immeuble, regard planant sur les barres perpendiculaires. Des adolescents guettent devant une entrée, regard tactique. Une mère ouvre la porte à des policiers zélés, regard outré devant l'abus de pouvoir. Et un cinéaste écrit et filme une fiction sur l'endroit où il a grandi, regard complexe sur la violence kaléidoscopique. En 1862, Victor Hugo avait pour ambition de porter un regard au plus profond sur le peuple et il écrivait « Il y a un point où les infâmes et les infortunés se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal, les misérables, de qui est-ce la faute ?» C'était aussi à Montfermeil, comme quoi l'histoire des lieux dépasse de loin les raccourcis médiatiques qu'on leur plaque. Bonsoir Ladjli.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Votre court-métrage « Les Misérables » a été primé au Festival de Clermont-Ferrand. Il est en sélection pour les Césars, comme un autre documentaire que vous... Comme un documentaire, parce que celui-là, c'est pas du tout un documentaire que vous co-réalisez, qui s'appelle « À voix haute », et dans tous les cas, la question de l'image y est prépondérante.
Bon, là, t'es à Montfermeil, les Bosquets, tu vois. Il y a quelques années, on pouvait pas tourner ici, on rentrait pas. Impossible. Bon, sinon pour le petit moment info culture, Victor Hugo a écrit Les Misérables ici là. Tu vois ?
C'est là Les Misérables.
Ouais. Thénardier, tout le truc, c'était ici là. La légende dit que Gavroche a traîné au Bosquet. Bon, faut lui trouver un petit nom, non ? Ça fait deux jours qu'il est là.
Mm-hmm.
Moi j'avais pensé à Pif ou à Nif.
Je suis pas fan.
Pento ? Pento, c'est bien, non ?
Ouais, Pento.
Pento ?
C'est le premier dialogue du film. C'est pas exactement le début du film des Misérables, parce que le début du film, c'est un travelling, et c'est précisément ce que j'essaye d'écrire au départ, un regard porté sur un endroit. Comment est-ce que vous décririez le regard de cinéaste que vous portez sur cet endroit-là ?
Alors, j'estime que c'est un endroit quasiment laissé à l'abandon par nos pouvoirs publics, que ce soit la cité des Bosquets à Montfermeil ou le Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. Là, on a tourné les trois quarts des plans, et notamment ce fameux travelling où on découvre la cité du Chêne Pointu. C'est, on peut dire que c'est un ghetto. Hein. C'est vraiment un ghetto qui a été laissé à l'abandon, où il y a une vraie misère sociale, il y a une vraie pauvreté. Moi, j'habite depuis plus de 30 ans dans ces quartiers. Moi, je suis issu de Montfermeil. Mon travail consiste en tout cas à témoigner de ce qui se passe, en tout cas dans ces quartiers assez difficiles. Ouais.
Quand vous commencez à filmer, ça fait un moment, parce que vous faites partie du collectif Courtrage-Mais qui a été créé en 1995. Mmh. Plus de 20 ans. Vous ne commencez pas forcément à filmer que de la fiction. Vous avez aussi une expérience en tant que comédien. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est écrit. Vous l'avez pensé comment, l'écriture de ce scénario-là ?
Bah, c'est vrai que Les Misérables, c'est ma première fiction. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'acteur chez Courtrage-Mais. Ensuite, je me suis mis à la caméra où j'ai commencé à filmer un peu mon univers. Point de départ du court-métrage, comme j'expliquais, moi, pendant longtemps, j'ai fait du cop-watch. Le Copwatch, c'est un concept qui a été créé aux États-Unis dans les quartiers difficiles, dans les ghettos aux États-Unis, où les habitants filmaient les interventions policières, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de violences policières, beaucoup de bavures. Donc les habitants ont décidé de filmer les policiers pour témoigner de ces bavures. Donc moi, j'ai repris ce concept où pendant plusieurs années, j'ai filmé les policiers sur Clichy et sur Montfermeil. Je l'ai filmé dans leurs interventions pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai filmé une bavure policière. Donc suite à cette bavure, bon, j'ai été convoqué au commissariat. On m'a déconseillé de sortir la vidéo, etc., etc. J'ai quand même décidé de la sortir. Le lendemain, j'ai été voir rue 89. On en a discuté. J'ai décidé de la balancer sur Internet. Et suite à la diffusion de cette vidéo, toute la presse a repris cette fameuse vidéo de la bavure, une enquête de l'IGS qui a suivi et des policiers condamnés. Donc de là, moi, je me suis rendu compte de l'impact et aussi de la force des images à ce moment-là, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, je m'en rendais pas vraiment compte, mais là, c'est vraiment c'était quelque part un élément déclencheur. Là, je me suis rendu compte que mes images avaient une portée nationale. Et donc là, je me suis rendu compte vraiment de l'impact et surtout de la force des images. Et de là, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire. Je vais commencer à écrire des histoires. Je vais commencer à raconter des histoires. Et d'où ma première fiction, Les Misérables.
Jusqu'à maintenant, l'impact des images, vous le viviez à l'inverse? Parce que, évidemment, quand on parle de ces endroits-là, on parle beaucoup de la manière dont ils sont montrés, dont ils sont regardés, dont ils fabriquent des images qui les desserrent d'une certaine manière.
Bien sûr.
Vous viviez cet impact ou ce braquage des images de l'autre côté?
Bien sûr, après ce que j'explique, moi, c'est vraiment un point de vue de l'intérieur que j'essaie d'apporter. C'est un témoignage. Et après, pour dire, moi, j'y habite, je connais les gens. Donc, il y a une confiance qui s'est installée avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment en banlieue, on fait plus forcément confiance aux médias. C'est vrai, hein, quand on prend même avant les émeutes et après les émeutes, c'est vrai qu'on a eu affaire souvent à des journalistes qui venaient, qui essayaient de filmer des jeunes, en tout cas de faire un sujet, et finalement, ça nous desservait à chaque fois. Donc à partir de là, on n'a plus confiance aux médias, en tout cas les habitants n'ont plus confiance. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours filmé, donc il y a cette confiance qui s'est installée, j'ai toujours filmé, les gens me font confiance, et c'est vrai que j'ai aussi une responsabilité pour pas déformer leurs propos, c'est important. À l'époque, j'avais fait un documentaire qui s'appelait GoFast Connection, justement, où le documentaire parlait du traitement médiatique sur les banlieues, où justement, on avait fait appel à Charles Villeneuve, qui présentait l'Aura de savoir à l'époque. On avait tous les clichés sur la banlieue, quoi. Donc on a voulu le prendre à contre-pied. À l'époque, il venait de se faire virer de TF1, il avait signé au Paris Saint-Germain, donc on lui a demandé gentiment de présenter justement ce docu-fiction que j'avais réalisé. Il a joué le jeu. Et justement, ce film, il parlait de ça, du traitement médiatique sur la banlieue, du rapport entre les journalistes et les habitants de ces quartiers. Et ce qu'on expliquait, c'est qu'il y a vraiment un fossé qui s'est créé, en tout cas entre les habitants et les journalistes, à force de déformer les propos des habitants.
Et il y a autre chose qui se passe quand on débarque dans la fiction et quand on commence à dire, eh bien, cette réalité n'a plus seulement le droit de citer d'un point de vue documentaire ou dans des reportages, mais simplement elle peut entrer dans la fiction pour que quelque chose d'autre se passe. C'est assez rare, finalement, l'Adjli, que cet univers-là entre dans la fiction. Mmh. On cite toujours Mathieu Kassovitz et la haine parce que c'était un point d'ancrage assez important. Mmh. Mais ensuite, ça se compte sur les doigts d'une main.
C'est vrai qu'il n'y en a
en
pas...
En France.
Ouais, c'est sûr, en France, il n'y a pas eu... C'est vrai, à part la haine, des films sur la banlieue. Bon, il y en a eu quelques-uns que je n'ai pas forcément aimé. Ma cible a craqué, tous ces genres de films. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de point de vue, en tout cas de réalisateur, qui a vraiment traité le sujet sur la banlieue. Et moi, enfin, sans prétention, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Quand j'explique, moi, je viens du documentaire, là, je me mets à la fiction, j'essaye de mélanger, en tout cas, les deux techniques. J'essaye d'apporter ce côté très réaliste dans la fiction. On le voit notamment dans Les Misérables, où c'est caméra embarquée, caméra à l'épaule, on est près des gens, on essaie d'apporter ce côté très réaliste. Et c'est important pour moi, en tout cas, de jouer sur ces deux panneaux-là, quoi.
Ça vous apporte quoi de pouvoir filmer cet endroit en racontant une histoire et plus simplement en étant témoin, comme vous le disiez tout à l'heure?
Je me suis rendu compte que quand on fait de la fiction, les gens ont tendance à beaucoup se confier. C'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens et à partir du moment où on fait de la fiction, j'ai l'impression que tout le monde a une histoire à raconter. Et je me suis dit, bah voilà, moi je suis là aussi pour raconter des histoires, donc je m'inspire, j'écoute les gens... Et c'est qu'un début, et je sais que j'ai plein d'histoires à raconter.
Et est-ce que l'écriture a été un moment agréable? Parce que d'un seul coup, on n'est plus seulement caméra à l'épaule, comme vous dites. On est devant un ordinateur ou une feuille de papier, et on la raconte, on l'écrit.
Après, clairement, moi, j'ai pas une formation de scénariste. Pas du tout. Et pour la fiction, on est obligé de passer par l'écriture. C'est une étape qui est très, très difficile. Je vous le cache pas, en ce moment, on développe le film Les Misérables en long métrage. ça va faire peut-être 6 mois qu'on écrit, et c'est un exercice qui est très 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 difficile, mais vraiment. Après, j'écris avec un co-scénariste qui a eu plus d'expérience, mais faut passer par là. Mais c'est vrai que c'est pas évident.
Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans l'écriture? Parce que par exemple, quelque chose qui est absolument incroyablement réussi dans Les Misérables, c'est la justesse des dialogues, leur économie et la justesse. Par exemple, atteindre ça, c'est difficile.
Bah, après, moi, j'ai une, en tout cas, j'ai une technique, moi, de tournage. J'ai une grosse part d'improvisation, en tout cas, dans ma façon de travailler. Par exemple, là, avec le scénario, quand je reprends le scénario du cours Le Misérable, on a un scénario qui a été écrit, mais finalement, je laisse une totale liberté, en tout cas, aux comédiens. Je leur donne les grandes lignes, et après, à eux d'improviser, d'utiliser leurs mots. Moi, je veux juste que ça sonne juste, quoi. Vraiment. C'est important pour moi, donc à eux de choisir leurs mots, à eux de choisir l'intonation, c'est vraiment... c'est comme ça que je procède, en tout cas pour les misérables, c'est comme ça que j'ai procédé. Et je pense continuer, en tout cas, dans cette stratégie-là, quoi.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'algérien, salut à toi le tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain.
Je crois que Les Misérables est un livre qu'on peut lire toute sa vie d'une certaine manière. Il fait partie de ces livres que l'on peut ouvrir à n'importe quelle page et se laisser emporter. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a chez Hugo une liberté d'écriture, une générosité et quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'on vit dans un moment où on exalte la rétention, le minimalisme, la constipation, le petit, l'étriqué, le chose comme ça qui paraît alors le grand art. Mais chez Hugo, c'est tout le contraire. La première fois qu'apparaît Gavroche voit de loin un tire-laine qui est en train de piquer sa bourse à Jean Valjean. Évidemment, Jean Valjean, qui est un ancien bagnard, ne se laisse pas piquer sa bourse et se rend compte de ce que fait l'autre. Et il lui fait un cours sur ce que ça signifie, le vol, qu'est-ce qu'il faut voler et tout. C'est une chose qui pourrait être expédiée en 2 répliques ou un coup de poing. Ça fait 4 pages et demie. C'est un extraordinaire discours sur la justice, le vol, etc., la condition sociale et tout. Hugo a envie d'écrire ça, il l'écrit.
Et on est en 1862, c'est Gérard Mordillat qui raconte son rapport à ce texte-là, Des Misérables de Victor Hugo. Là, Julie, vous décidez de donner le titre Des Misérables à votre court-métrage et un futur long-métrage. Vous avez quoi comme rapport à ce texte ?
Le rapport à ce texte, en fait, moi j'ai grandi à Montfermeil, je suis né à Paris mais j'ai grandi à Montfermeil, et en fait le roman de Victor Hugo, une partie du roman se déroulait à Montfermeil, notamment on a encore aujourd'hui la fontaine Jean Valjean, on a encore la maison des Thénardier, donc on a un rapport qui est assez fort, nous depuis gamin à l'école on nous bassine avec Victor Hugo, l'histoire s'est déroulée sur Montfermeil, donc depuis notre plus jeune âge on est lié quoi qu'il arrive à cette histoire. Et ce qu'il faut dire, la misère, plus d'un siècle après, elle est toujours présente sur ces territoires. À croire que c'est une terre qui est maudite à jamais, que la misère continue à être présente, en tout cas sur ces territoires. c'était important de faire un parallèle entre le roman de Victor Hugo et mon cours qui traite aussi de la misère, de la misère sociale. Et comme je le dis, c'est Les Misérables, ça englobe vraiment tout le monde. C'est pas juste la population, c'est et la population et les policiers. Parce qu'il faut dire, les policiers, la plupart, ils habitent aussi dans des quartiers. Ils sont là 8 heures par jour pendant des années et des années. Donc, ils sont confrontés aussi quelque part à cette misère. Donc, j'englobe vraiment toute la population des Misérables, que ce soit les policiers, les jeunes, les moins jeunes.
Et d'un seul coup, c'est un endroit ou un territoire qui n'est plus seulement qualifié par ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir un ghetto. Le ghetto, il peut s'entendre d'un point de vue communautaire, il peut s'entendre d'un point de vue économique, certes, mais il est assez peu présenté comme un endroit économiquement faible. C'est-à-dire qu'on dit finalement pas tant que ça que c'est la misère. On dit beaucoup que c'est la violence, on dit aujourd'hui que c'est les radicalisations, on dit aujourd'hui que c'est des violences sexistes, on dit beaucoup ça, mais on dit peu que c'est la pauvreté.
Moi, j'y habite, je peux vous dire que oui, si, il y a de la pauvreté, il y a même beaucoup de pauvreté, il faut le dire.
Mais vous entendez beaucoup ce discours ? Vous entendez beaucoup dire que ce sont des endroits pauvres avant tout ?
Oui, aussi, bien sûr. Moi, je prends le cas, en tout cas, Clichy, Montfermeil, avec 40% de chômage chez les jeunes. Donc forcément, qui dit chômage dit pas de travail, pas de salaire, donc forcément on se retrouve sans argent. Après la misère, il y a des gens qui travaillent, qui touchent le SMIC et qui vivent aussi dans la misère. C'est pas juste... Après, qu'est-ce que ça veut dire la misère encore aujourd'hui ? C'est la question peut-être qu'il faut se poser, mais moi j'estime qu'une personne qui travaille et qui gagne 1000, 1200 euros, bah, il vit dans la misère. Quand tu touches 1200 euros, que tu as 800 euros de loyer, tu payes tes factures, à la fin du mois il te reste... 150 euros, voire moins des fois, c'est une forme de misère. Après, bon, c'est pas genre la misère, les gens crèvent de faim, c'est pas non plus ça, mais c'est une forme de misère. Quand on habite dans un immeuble qui n'a pas été rénové pendant 40 ans, qui est totalement laissé à l'abandon, après ce qu'il faut dire sur le quartier Clichy-sous-Bois, les gens payent jusqu'à 1200 euros de loyer dans des conditions, mais... Franchement, c'est incroyable. Mais vraiment, je le dis, c'est incroyable. Les gens payent 1200 euros de loyer pour habiter dans des tours délabrées. Donc oui, tout ça, ça englobe c'est ce que j'appelle la misère, en tout cas. Après, ça peut être vu autrement, mais j'estime que quand on habite dans ces quartiers, qu'on est au chômage, qu'on touche très peu d'argent, qu'on est isolé, qu'il faut, par exemple, Montfermeil, c'est à 12 km de Paris, bah, il te faut pratiquement 2 heures pour arriver à Paris. Même ça, c'est une forme de misère. Tous les jours, 2 heures aller, 2 heures retour. À un moment donné, bah ouais, c'est pas évident.
Quand je dis, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous avez l'impression que le discours que vous portez est un discours qu'on entend souvent ?
Non, pas forcément. C'est vrai, quand on parle des quartiers, on parle souvent de la délinquance. En ce moment, beaucoup des barbus, de l'islam, de la radicalisation, mais la réalité, après, bon, c'est ce que les gens disent. Mais faut aller sur place pour voir en vrai ce qui se passe. Et moi, j'y habite et je peux vous en parler longtemps. C'est vrai qu'il y a une vraie misère. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle une misère sociale. Le fait d'être là, dans ces quartiers, d'être presque abandonné, d'être isolé, qu'il y a un taux de chômage qui est énorme, c'est pas évident.
Espèce de petit pervers.
Quoi ?
T'arrêtes jamais.
Elle a transpiré, là, dès que je me suis rapproché, j'ai senti... Non, mais elle est quand même jolie, hein. T'as vu ses petits yeux bleus ? T'as pas vu, toi ? Je mettrais bien mes pattes là-dedans, dans des petits trucs un peu frais, quoi, tu vois.
Et on n'a pas mieux à faire, là, que de s'amuser avec des gamines. Tout ça pour un peu cheat, ça va un peu loin, non ?
Qu'est-ce qu'il a, le petit pento, là ? T'es pédé ? T'as un problème avec les filles ? Vas-y, Guada, arrête-toi, là. C'est nous qui mettons la pression, pas l'inverse, t'as compris ? T'as pas l'esprit bac, tu bouges.
Eh, t'es pas à Poitiers, ici.
Ça va, j'ai compris, ouais.
T'as intérêt à t'adapter rapidement.
Ouais, je vais m'adapter, ouais.
Tu veux faire de la vraie interpelle ?
Baptême du feu pour Pento.
C'est un deuxième extrait de votre court-métrage, La Djili, les Misérables. Une grande partie de ce court-métrage suit un trio de policiers, dont un, on l'entend, qui vient d'arriver. Ils sont... tous les trois des membres de la brigade anticriminelle. Et leur première interpellation s'arrête sur deux jeunes filles, dont l'une qui, à la fois, vient de finir un joint, en tout cas de le jeter sous un abribus, et détient une petite boulette de shit dans son soutien-gorge. Pourquoi est-ce que cette première interpellation concerne des jeunes filles quand elles seront ensuite complètement absentes de l'histoire ? au moment de l'écriture. Pourquoi est-ce que ça vous est venu comme ça?
Ben souvent, on nous reproche, de ne pas mettre de filles dans nos films.
Qui ont?
Ben, les gens qui ont l'habitude de voir nos courts-métrages, en tout cas. Que ce soit les courts-métrages, mais ou tout ce qu'on a pu faire. Souvent, c'est un milieu très masculin. Et souvent, on entend, la banlieue, à chaque fois, c'est très masculin. Il n'y a pas assez de femmes, etc. Sauf que les femmes, elles sont là, elles vivent là, elles existent.
Pour la moitié de la population, la dernière nouvelle.
Exactement. Donc... mais c'était important pour moi de faire cette scène avec deux filles pour expliquer qu'elles sont là aussi, elles existent, elles font leur vie, elles fument, elles sortent, elles prennent le bus, elles vivent normalement comme tout le monde. Parce que souvent on entend les femmes en banlieue, les filles en banlieue, elles sont enfermées. Ça, c'est entièrement faux. Elles ont une liberté qui est totale. Moi, je vois, quand on traîne dans le quartier, les filles, elles sont là, elles existent, elles vivent, il y a de la joie, elles ont envie d'exister, elles ont envie de sortir, elles ont envie de faire la fête. Et c'était important de... qu'elle soit là dans mon film.
Bon,
c'est vrai que la scène...
Elles disparaissent dans pas très longtemps dans le film, mais on pourra
en
discuter.
Oui, c'est clair. Bon, moi, elles sont là, quoi. Elles sont présentes
au début.
Au
moins, elles sont présentes au début.
Comme ça, on ne pourra pas nous reprocher qu'on ne met pas de filles dans nos films.
Ça ne veut pas dire qu'on n'en rediscutera pas. En revanche, ça augure d'une discussion à l'intérieur de la voiture, qui est vraiment une discussion sexiste, et qui place les rapports entre ces trois policiers dans une forme de défi à la virilité débile.
Oui.
Comme si vous campiez quelques hypothèses pour direct rentrer dans le court-métrage. La misère territoriale et sociale, et assez rapidement, une forme de bêtise dans le discours portée par ces trois hommes-là. Comment vous la décririez?
Comment je la décrirais? Je me mets à la place de ces policiers qui sont là dans leur voiture tous les jours à tourner en moyenne 8 heures par jour. Donc forcément, ils sont confrontés à cet univers, ils sont confrontés au fait de voir plein de filles ou de jolies filles tourner dans le quartier. Et je pense que quelque part, il y a un peu de frustration de leur part, le fait de pas pouvoir leur parler, communiquer, en tout cas, instaurer un dialogue. Et dans cette scène, ce que je décris aussi, c'est que le seul dialogue qu'il y a, c'est aussi de la violence, quelque part. Parce que je pense que Chris, il aurait aimé aller la voir, lui faire 2-3 blagues, la séduire, peut-être lui demander son numéro de téléphone. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc son seul rapport, c'est ce rapport de violence qu'il y a entre Chris et cette jeune fille. Et après, on le voit dans la scène d'après, il est dans la voiture tout content, il a fait sa petite blague à la con. Donc voilà, c'est vrai que le rapport, il est assez complexe. Il est assez complexe.
Et il y a aussi un rapport assez complexe entre Chris et le nouveau venu, Pento, puisque à partir de ces blagues débiles concernant la jeune fille, s'instaure un défi à la vérité.
Bien sûr, bien sûr.
Qui va avoir des conséquences très graves.
Complètement. Stéphane, il cautionne pas du tout les façons de faire de Chris. C'est vrai que Chris, c'est un policier assez borderline, qui est assez perché. Des policiers comme ça, il y en a. C'est ce que j'explique, dans tous les quartiers, dans toutes les bacs, il y en a un qui est assez foufou, prêt à dépasser les limites. Et c'est vrai que Pento arrive de Poitiers, il connaît pas du tout cet univers. Et les premières minutes du film, on le voit, il découvre cet univers chaotique. Donc on le voit dans son visage, il est choqué, quoi. Il arrive dans un monde qu'il connaît pas du tout. Et son premier rapport à ce monde, c'est ce contrôle avec deux petites minettes, où Chris se force un peu. Donc forcément, lui, il n'est pas d'accord avec Chris. Donc forcément, là, la confrontation va commencer à partir de cette scène.
Mais c'est une confrontation qui est sur le terrain, je répète une troisième fois le mot, de la virilité. C'est-à-dire que ça va être si t'es un vrai, si tu...
Oui, mais bien sûr, parce que comme on sait, c'est une BAC qui vient d'arriver, faut prouver que t'as l'esprit BAC.
Et c'est quoi l'esprit BAC?
L'esprit BAC, c'est la solidarité entre la BAC. Peu importe ce qui se passe, on est solidaire. Peu importe qu'il y ait une bavure, qu'il y ait quoi que ce soit, on reste solidaire, c'est l'esprit BAC. C'est comme ça. C'est une grande famille, faut qu'on soit soudés. On travaille dans des conditions difficiles, c'est pas facile tous les jours, donc au moins, ce truc où on est ensemble, on est vraiment soudés, c'est un esprit que je pense est important, en tout cas pour ce trio.
Et c'est une soudure qui va passer par la violence, puisque pour montrer qu'il a l'esprit BAC, il va interpeller de manière extrêmement violente et musclée un jeune homme un peu plus tard dans la même cité. Ça veut dire que c'est quoi c'est une violence qui soude?
Bien sûr, c'est une violence qui soude quelque part. À partir du moment où il y a ce premier contrôle violent, quelque part, Pento, le nouveau, est validé. Ok, il est capable d'être violent envers les jeunes, donc on le valide. Il a l'esprit BAC, donc à partir de là, on sait qu'on pourra continuer à tourner, à faire notre travail. les conditions, j'ai envie de dire, anormales, quoi. Mais vraiment.
En miroir, vous montrez d'autres violences, par exemple, une sorte de grand frère qui violente lui aussi des jeunes gens qui ont fugué depuis quelques jours, qui leur fait faire des pompes et qui les humilie dans une entrée d'immeuble. Mmh. Et comme si, en fait, il y avait plein d'endroits où la violence était une forme de matériau de cohésion sociale, en fait.
La violence, elle est vachement présente. Même le rapport entre Biron le maire, qui est quelque part un grand frère, avec les gamins qui met des baffes parce qu'ils ont fugué. C'est vrai que les rapports, ils sont parfois violents. C'est vrai, il faut le dire. Ne serait-ce qu'entre grands frères, petits frères ou entre habitants. C'est vrai que des fois, il y a des rapports de force et c'est comme ça. Hein. Nous, on a grandi dans ces endroits-là. Bah, depuis le plus jeune âge, il faut savoir se défendre, il faut pas se laisser faire. Et depuis petit, c'est comme ça. Donc, ça fait partie du mode de vie dans ces quartiers. Après, j'en fais pas une généralité, mais c'est vrai que par moments, c'est assez violent.
C'est quand même ce qui attire votre œil de cinéaste.
Bien sûr, c'est important pour moi. Moi, j'étais baigné dedans, donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de raconter aussi. Enfin, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, on le sait parce que c'est notre quotidien, on est confronté à ça. Mais c'est vrai que quand on est de l'extérieur, ça paraît plus complexe, en tout cas.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de filmer? Est-ce que ça vous permet de comprendre?
De comprendre, c'est-à-dire?
Je sais pas, parce que vous filmez plein d'endroits de violence, la violence des policiers, la violence des jeunes entre eux, la violence des moins jeunes avec les plus jeunes entre eux, des violences aussi liées à des trafics, qu'on suppose, dans le café Chicha ou avec les guetteurs. Mmh. Est-ce que filmer, le mettre en fiction, ça vous permet de comprendre un peu mieux les ressorts de tout ça?
De comprendre, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie surtout de témoigner, quoi, de raconter un peu cet univers, comment ça se passe de l'intérieur. Après, comprendre, je connais assez bien cet univers, sans prétention, donc moi, c'est plus un témoignage.
Non, mais connaître, c'est une chose, mais comprendre, c'est autre chose. Vous dites que vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, je comprends ce qui se passe. Ouais. Je comprends sur ce place, sachant que c'est mon univers, que, enfin, j'ai toujours été baigné dedans, donc je comprends.
Et alors, par exemple, cette violence-là, on l'explique comment? Parce que vous dites, finalement, on l'observe,
c'est notre environnement. On l'explique comment? Le fait, déjà, juste le fait d'être isolé, le fait d'habiter dans ces quartiers où on se retrouve entre Français d'origine... moi, pour ma part, je suis d'origine malienne, en tout cas dans ces quartiers. En tout cas, moi, je prends l'exemple de Montfermeil. Dans ma tour, il y a au moins facile 30, 40 nationalités différentes. Donc on a des gens qui arrivent de différents endroits à travers le monde, qui ont tous des problèmes différents. On a plein de réfugiés politiques aussi, notamment le quartier de la Forestière. Donc on a des gens qui arrivent du quatre coins du monde, qui ont tous des problèmes. On se retrouve tous regroupés dans ces mêmes quartiers avec 400 problèmes à gérer. Donc c'est pas évident. Et même au niveau, qu'on parle de mixité sociale, etc., etc., dans ces quartiers zéro mixité, qu'on se retrouve entre gens venus des quatre coins du monde. Et il faut faire avec, il faut gérer. Et c'est pas facile, quoi.
En fait, l'évolution qui vient d'être décrite est antérieure. Elle devient très manifeste à partir du début des années 90. Lorsque à la fois de nouvelles législations sont passées beaucoup plus sévères, élargissant les délits, élargissant les possibilités de contrôle d'identité, avec notamment les contrôles préventifs, et en même temps de nouvelles missions assignées aux polices et de nouvelles unités créées qui sont justement ces brigades anticriminalité. Donc c'est vraiment au moment des années où Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur que tout un arsenal législatif et des dispositifs policiers sont mis en place qui vont véritablement infléchir la manière d'intervenir des forces de l'ordre. Et ce sera encore renforcé à partir du début des années 2000, avec encore un élargissement de l'arsenal législatif et une multiplication de ces brigades. Donc il y a un durcissement qui est sur un peu plus de deux décennies. C'est aussi la manière qu'ont de se représenter eux-mêmes les agents de la BAC et puis leurs collègues qui les voient comme les durs des forces de police. Et du reste, il y a toute une symbolique autour de ça. Il y a des écussons qu'ils portent avec des représentations d'animaux sauvages.
Il faut décrire l'insigne de la BAC de Courbevoie qui est absolument effrayant.
Oui, c'est une mire d'un fusil qui vise les immeubles d'une cité. Et il y a comme ça toute une iconographie extrêmement riche qui a été imaginée par les policiers et qui montre bien cette façon de voir leur mission. Et au fond, comme me le disait un commissaire de la région parisienne que j'interviewais, c'est pour nous un mal nécessaire, me disait-il.
Un mal nécessaire, dit Didier Fassin, interviewé par Hervé Gardette sur France Culture au moment de la parution de son étude. Sur la brigade anticriminelle, la BAC, un mal nécessaire. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça, Ladjli ?
Un mal nécessaire. Je ne sais pas quoi répondre, mais je vais revenir un peu sur mon rapport, en tout cas, ce que j'ai entendu, que c'est vrai que la police, la BAC, à partir des années 2000, c'est là où 90, ça a commencé, même. 80... Mmh. Je dirais plus les années 2000. Moi, mon rapport, en tout cas, avec la police, il faut expliquer, c'est que moi, depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 12-13 ans, en fait, on allait au centre de loisirs. Ça s'appelait le CLJ. C'était un centre de loisirs qui était dirigé par la police. Voilà. Nos animateurs, c'était des policiers. Voilà. C'est comme ça, mon premier rapport avec la police, moi, je les ai connus en tant qu'animateurs. Donc, pendant des années, pendant 5-6 ans, on allait... dans ce centre de loisirs où tous les animateurs étaient des policiers. Mais vraiment, je me rappelle encore d'Alain Mango qui était un des directeurs. Aujourd'hui, on se croise 15 ans après, on s'arrête, on se parle, on se dit bonjour et ça se passe super bien. Donc nous, le rapport avec la police, il a commencé où c'était vraiment nos animateurs. Donc on s'entendait super bien avec eux. Il n'y avait pas ce rapport jeune policier. Non, c'était nos animateurs. On savait aussi qu'ils étaient policiers. Donc on faisait des activités avec eux. On allait en sortie, on faisait de la moto avec eux. Donc notre rapport avec la police, il a vraiment commencé comme ça. Jusqu'à nos années 98-2000, où là, il y a eu un changement où la police, du jour au lendemain, c'était presque pas nos amis, mais en tout cas, il y avait un respect qui était là. Et du jour au lendemain, on a eu affaire à une police qui est arrivée ultra violente, ultra méchante. Mais vraiment,
c'était des gens différents ?
Oui, complètement. C'était des gens complètement différents. Nous, on avait affaire à une police nationale, des mecs super cool, quoi, qui avaient en moyenne 25 ans. Et du jour au lendemain, on a eu affaire à des vrais cow-boys. Des mecs qui arrivaient presque avec des armures, des armes. Et du jour au lendemain, les rapports ont changé radicalement. Mais vraiment. Et c'est vrai que depuis les années 2000, il y a cette nouvelle BAC qui est arrivée. Il y a eu beaucoup de problèmes, en tout cas sur Clichy-Montfermeil. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. C'est là où ça a vraiment démarré les rapports de force entre la police et les jeunes. Et après ça, ils nous ont mis la police de proximité. Ça a commencé en 2000, je crois, la police de proximité. Et pareil, la police de proximité, il y avait un dialogue qui a réussi à être instauré. On arrivait à parler avec la police. Quand il y avait un souci, on arrivait toujours à communiquer, essayer de régler les problèmes. Et du jour au lendemain, on a retiré la police de proximité pour mettre des nouvelles brigades là, juste pour castagner, quoi. Mais vraiment, je le dis, tous ces brigades de terrain, etc., etc., ils sont là juste pour casser les bouches. Mais vraiment, ils sont d'une violence mais incroyable. Et ça, on en parle très peu, mais des violences, il y en a tous les jours. Il faut le dire. Peut-être aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais des violences, il y en a tous les jours. Mais tous les jours. Et alors, le concept, c'est quoi ? Ils sont dans la voiture, ils tournent dans le quartier, ils tournent en rond, mais à force de tourner, ils s'ennuient. Donc, ils ont besoin d'action. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils vont contrôler les jeunes. Première fois, une
deuxième fois. Qui s'ennuient aussi.
Et qui s'ennuient aussi, parce qu'il faut dire, les jeunes, souvent les jeunes qui traînent, là, qui sont là, en bas des halls. On dit, oh, c'est des trafiquants, il y a du trafic. Non, c'est juste des mecs qui habitent là, qui habitent dans cette tour. Bah, il y a aussi du trafic, je ne vais pas dire le contraire.
Il y en a qui mais tiennent le mur juste pour tenir le mur, et puis il y en a qui...
Exactement, mais on ne peut pas en faire une généralité, parce que souvent l'image qu'on a, c'est ils traînent, bah, il y a du trafic. Mais c'est faux.
Ils s'ennuient.
À 80%, c'est des gens qui sont là et qui s'ennuient, qui se font chier, qui ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas rester chez eux parce qu'ils vivent encore chez les parents. Il n'y a pas assez d'espace, c'est compliqué.
Et 40% de chômage qu'on évoquait tout à l'heure.
Exactement, et 40% de chômage. Donc les mecs, ils sortent dès le matin, ils sont là, les poches vides, pas d'argent, c'est la galère, on est là, on traîne, mais il n'y a rien à faire. Et bien la police, c'est pareil, ils sont là dans leur véhicule, à tourner en rond, et tous les jours, ils sont confrontés à ces mêmes jeunes qui contrôlent tous les jours, alors qu'ils les connaissent par cœur. À un moment, ça craque. Une fois, deux fois, au bout de la troisième, tu dis, bon, c'est bon, tu m'as contrôlé hier, tu m'as contrôlé avant-hier, tiens mes papiers, tu connais mon nom, j'habite au-dessus, à un moment donné, ça suffit. Et à partir du moment où tu commences à te rebeller, ben voilà, outrage, rébellion, on t'embarque, on t'abat, tu te retrouves à la justice, etc., etc., ben à force, une première affaire, une deuxième, une seconde, et finalement, tu te retrouves en prison. Parce que les trois quarts aussi, ils se retrouvent en prison, faut le dire, ça aussi. Aujourd'hui, pour rien, tu te retrouves en prison. Il suffit que tu te prennes une baffe et que tu sois pas d'accord, ben tu peux te retrouver en prison. Et ça, c'est une réalité. Vraiment. Ça, moi, je le dis, le jour où j'ai filmé cette bavure, j'étais quelque part, j'étais super content de l'avoir fait, et je l'assume aujourd'hui, malgré tous les problèmes que j'ai pu avoir, parce qu'il faut se dire, moi, après avoir publié cette vidéo, franchement, j'en ai pris plein la gueule. Mais j'ai eu j'ai même pas envie de vous en parler, mais depuis cette vidéo, j'ai eu tellement de problèmes avec la police, la justice, les politiques, mais vraiment, bref. Mais je le fais, et je l'assume totalement, parce qu'il fallait le faire, et c'était important de témoigner de toutes ces violences qui perdurent encore aujourd'hui, hein. Là encore, il y a un an, encore reprend l'affaire Théo, un gamin, qui se prend une matraque dans l'anus, c'est quand même grave. Quand on reprend l'histoire d'Adama Traoré, pareil, il y a sa famille qui est là, qui essaye de se battre pour obtenir justice, mais c'est un cauchemar. Tous les frères sont emprisonnés, on veut les détruire, on veut pas leur laisser la parole, on veut pas, alors qu'il y a quand même leur frère qui est mort, quand même, dans les bras de la police. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, c'est quoi le souci? Il y a tout le temps des bavures, il y a des morts, et finalement, les policiers ne sont jamais condamnés. Donc, il y a un problème. Je suis désolé, quand les jeunes ils font une connerie, ils se retrouvent en prison. Hein. Quand on va en prison, les trois quarts, c'est des gens issus des quartiers, des Noirs, des Arabes, qui se retrouvent enfermés pour un oui, pour un non. Donc, on aimerait bien aussi que la justice fasse son travail quand la police commet une faute, qu'elle soit sanctionnée. On ne dit pas, on est anti-flic, on n'aime pas la police ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on dit. On dit, à partir du moment où la police commet une faute, faut qu'elle soit sanctionnée.
Dans le cas de cette vidéo que vous aviez vous-même réalisée, il y avait eu un jugement et il y avait eu condamnation des policiers.
Bien sûr, suite à cette vidéo, enquête de l'IGS, et les policiers étaient condamnés.
Donc,
c'était une première.
Arrive de temps en temps. Dans le film Les Misérables, Ladjli, cette image, alors peut-être que justement ça vient de l'expérience que vous avez vous-même vécue, cette image d'une bavure, elle est réalisée par deux enfants, dont un en particulier qui pilote un drone depuis le toit de l'immeuble et qui, grâce à ce drone, filme une bavure policière. Et le voilà embarqué, lui aussi, dans la tension entre à qui remettre.
Exactement.
À qui remettre cette image. Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir de témoignage? Et là, on entre dans quelque chose, c'est pour ça que je disais dans mon introduction que c'était un tissu de violence kaléidoscopique, parce que tout le monde s'arrange pour que rien n'existe. Qui s'arrange, par exemple, dans l'histoire, pour que rien ne sorte? Parce que rien ne sort, finalement.
En tout cas, dans l'histoire, qui s'arrange, mais c'est avant tout les policiers. Mais ça arrange aussi Biron le maire, qui tient un petit peu le quartier. Ça arrange aussi Lapin, qui est aussi un peu le trafiquant du quartier. Mais il faut dire, après, tout le monde est lié.
Ça arrange tout le monde.
Ça n'arrange pas le gamin, peut-être, qui s'est fait tabasser. Ça n'arrange pas sa famille. En tout cas, ceux qui tiennent le terrain, ça les arrange. Que ce soit le maire, la pince, les policiers. Après, il faut dire, ça arrive aussi qu'il y a... Ce que j'explique aussi dans ce film, c'est le rapport, justement, entre toutes ces personnes, entre les policiers...
Parce que tout ça, ça circule.
Les trafiquants, les grands frères, entre guillemets. À un moment donné, tu es obligé de dialoguer, tu es obligé de discuter. Si tu veux vraiment qu'il y ait une avancée, tu es obligé. Ça ne peut pas juste être des rapports de force. Donc, à un moment, il y a un dialogue qui est établi et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. On a tous entendu un moment où il y a des policiers qui étaient impliqués dans des affaires, dans le truc. C'est comme ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les flics discutent avec... C'est comme ça que ça se passe et c'est une réalité. Et on peut pas nier. C'est réel.
Il y a discuté et il y a coopéré pour que rien ne bouge. Parce que, en gros, ce qui se passe dans votre film,
oui,
à vous...
Oui, quand je discute, c'est coopérer, ça va ensemble.
Parce qu'on pourrait avoir un dialogue constructif.
Aussi, on discute et on coopère pour pas que ça dégénère, quelque part. Et c'est le cas aussi pour cette vidéo. Là, on discute, on collabore, on se met d'accord. Le lapin, c'est prêt à payer le maire pour qu'il file la vidéo.
Quand on dit le maire, c'est un des grands frères.
Oui, le maire, c'est un des grands frères qui tient le quartier. C'est le maire de la cité, quoi. C'est aussi son surnom.
Ce qui dit quelque chose, Ladji, le fait que... Parce que quand, sous la violence, le jeune homme qui détient la vidéo dit « Je l'ai donné à monsieur le maire », petit sourire, on s'attend à se retrouver dans un hôtel municipal et à débarquer chez monsieur le maire.
Exactement.
On arrive en fait dans un hall d'immeuble absolument obscur et en fait, monsieur le maire, c'est un grand frère qui va finalement bidouiller avec les policiers. D'une certaine manière, que dites-vous en disant cela? Que là où il devrait y avoir monsieur le maire, c'est-à-dire une force politique, une force étatique,
Je raconte, c'est que quelque part, les gens se sentent abandonnés. Donc à partir du moment où tu te sens abandonné, tu t'organises autrement. Vraiment. On se dit, quand, enfin, souvent, ce qui ressort, c'est que ces quartiers ont été un peu délaissés par les pouvoirs publics, etc., etc. Donc, quelque part, on s'organise. On s'organise pour pas que ça dégénère plus. On essaie de trouver des solutions. On essaie d'avoir des accords. Et c'est une réalité. C'est comme ça que ça se passe.
Et pas forcément au profit, vous disiez tout à l'heure, d'un très grand pourcentage de la jeunesse, voire de l'enfance, parce que c'est vraiment des gamins qui sont sur le toit. Pas forcément à leur profit quand vous dites cette organisation.
Oui, mais après, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de l'histoire. Là, en tout cas, bon, là, ça reste une fiction. Là, c'était le cas, c'était le, par rapport à la vidéo. Il fallait la récupérer pour pas que ça parte en émeute, pour pas qu'il y ait d'histoire. Donc, en même temps, ça arrange tout le monde, comme je dis. Ça arrange le maire, la pince et les flics. Et ça arrange même les jeunes, parce qu'après, ça peut dégénérer aussi. À partir du moment où la vidéo sort, ça peut créer aussi les troubles. Ça peut. Après, je dis pas que c'est la solution, mais dans la réalité, oui, on essaie de trouver.
Et alors, est-ce que vous diriez que dans la réalité, il y a une sorte de, justement, souvent de couvert de marmite pour que on fait tous en sorte que, voilà, juste.
Bien sûr, c'est toujours passé comme ça. Enfin,
mais jusqu'à
les politiques, même les politiques, on sait très bien comment ça se passe dans les quartiers. On arrive, on arrose certaines associations et voilà, c'est à eux de gérer. C'est comme ça se passe.
Mais jusqu'à quand?
Bonne question. Jusqu'à quand? Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça se passe encore aujourd'hui. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Solitude à mille fenêtres, même si ce qu'on a dû baptiser la pathologie des grands ensembles n'arrive pas à nous faire regretter les taudis originels, on sait du moins qu'ici, il y avait place pour le bonheur. Et là, on ne sait pas.
Les solutions actuelles, leur côté fastidieux, leur côté monotone, inhumain parfois,
oui.
Pénible et moche et tout ça, ça vient du fait qu'on ne pense pas du tout à ce que ça soit autre chose, que voilà, le but essentiel, ce n'est aucune de ces considérations-là, le but essentiel, c'est du fric. Et c'est pour ça que les autres techniques, une autre technique est possible, il faut repenser une autre technique, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir dans quel autre cadre elle peut se pratiquer, cette technique. Elle ne peut pas se pratiquer dans le cadre où un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré. C'est pas possible, ça, c'est... Quand un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré, il faut faire des gratte-ciels. Des gratte-ciels, ça peut être très beau, on en parlait tout à l'heure, mais à Paris, ça peut aussi être très beau à Paris. Mais les multiplier comme on veut le faire, par exemple, dans le 15e, c'est particulièrement ridicule. Bon, mais sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu ferais?
Enfin, on rêve. Je commencerai d'abord par planter des arbres. Des arbres, de la viande.
Non mais attends, on te demande quand même de loger des gens.
Bien sûr. Et puis ensuite. Mais de toute façon, on ne peut pas résoudre le problème sur un simple terrain.
Non, parce que vraiment, enfin, voilà. L'ensemble. Mais à partir de
mais
ça, on se.
Attends, mais.
C'est permis d'imaginer.
Des très petites choses cachées dans les arbres, comme les oiseaux, à côté des oiseaux, tu vois. Parmi la verdure, les arbres,
à
parmi
rez-de-chaussée.
Les oiseaux. Il y en aura à rez-de-chaussée, il y en aura en étage, au niveau des arbres, en haut. À la hauteur des arbres, un peu plus haut, mais guère plus, en contact avec la nature toujours.
Oui.
Tu vois?
Parce que finalement, absolument. Tout ce que ça reflète, ce qui se fait actuellement, c'est qu'on s'emmerde à vivre ensemble.
Absolument.
On se fait chier.
Absolument. On gêne, quoi.
Et en réalité, ce que ça suppose, ce que tu dis, y compris les changements dont on parlait, les autres changements que les changements d'architecture, c'est qu'à un certain moment, les architectes, ils se disent « mais c'était pas temps d'être ensemble ».
C'est un extrait du Joli Mai de Marker et l'Homme, un film de 1962. Deux architectes discutent ensemble des grands ensembles et de la transformation des bidonvilles en grands ensembles, à la fois à l'intérieur de Paris et à l'extérieur de Paris. Vous disiez, juste avant qu'on commence l'émission, quand je vous ai dit qu'on allait passer cet archive, que Chris Marker, c'était pas finalement pas un mauvais hasard que de tomber sur lui. Pourquoi ?
Ouais, Chris Marker, en fait, on le connaît, ça va faire plus de 20 ans. En fait, à l'époque, c'était le voisin de Kim Chapiron. Donc, depuis le début, il suit un peu tout ce qu'on a pu faire avec Courtrajmé, il nous soutient. Et moi, j'ai bossé avec lui pour mon documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Chris Marker, chez lui, à l'époque, il enregistrait tout ce qui se passait à la télé. Il avait des centaines de magnétoscopes et tout était enregistré, tout est... En fait, c'est lui qui m'a refilé toutes les archives pendant les émeutes. Donc, on avait collaboré pour le documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil.
Et c'est important que vous fassiez écho à ce documentaire-là et peut-être aussi à la manière dont vous filmez Clichy-Montfermeil dans, cette fois, le court-métrage de fiction, parce que dans le Joli Mai, il y a beaucoup de plans de différentes cités, de grands ensembles en Ile-de-France. Mmh. Et c'est une manière de filmer ces endroits que je trouve, qui est très nouvelle pour l'époque et qui sert, je trouve, d'archives aujourd'hui absolument incroyables. Mmh. Est-ce que vous avez pris, au-delà de tout ce qu'on a dit sur les violences, sur la misère, plaisir à filmer ces endroits? Est-ce que vous leur trouvez une certaine... Non, j'ai du mal à dire beauté, mais est-ce que vous avez pris plaisir à filmer ces endroits?
Oui, quelque part, mais bien sûr, faut le dire. Moi, je trouve, certes, à première vue, on peut se dire une barre bétonnée, etc., etc., mais à filmer, c'est joli. Nous, moi, comme j'explique, moi, je considère que Clichy-Montfermeil, c'est mon studio de tournage. Vraiment, c'est ce que je dis et c'est une réalité. Hein. Donc, ça va faire plus de 15 ans qu'on tourne là-bas et visuellement, c'est super beau. Et je suis pas le premier. Le nombre de productions qui viennent tourner encore aujourd'hui à Clichy, c'est juste incroyable. Encore dernièrement, il y a eu un film qui a été tourné par Omar Sy. Il y a une pub avec tous les footballeurs. Enfin, c'est un studio de tournage à ciel ouvert, mais vraiment, et les décors sont fantastiques. En tout cas, visuellement, c'est très joli.
Mais par contre, d'un point de vue architectural, ça pose beaucoup plus de questions. Là, on est en 1962, ces deux architectes cherchent à faire différemment. C'est exactement le moment, la période de construction des Bosquets, ouais. Cette cité que vous filmez, entre autres, dans Les Misérables. Il y a une question urbanistique et une question architecturale qui est très forte quand même sur la constitution des ghettos dans ces endroits-là. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Qu'est-ce que vous comprenez là encore de ce qui s'y passe ?
C'est vrai que je reprends mon documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil. Les trois premières minutes, j'ai utilisé les archives de Montfermeil dans les années 60, quand ça venait juste fini d'être construit. Et c'est vrai que dans ces années, c'était un peu l'Eldorado. Hein, quand tu débarques du tiers-monde ou que tu vivais à Nanterre dans un bidonville tout pourri, finalement, on te donne un logement tout neuf avec une salle de bain, une cuisine.
Toilette, cuisine.
La totale. C'est vrai que dans les années 60, bien sûr, c'était l'Eldorado. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a pas suivi. Parce que moi, je prends l'exemple, en tout cas chez nous, il y avait un projet d'autoroute, il y avait un projet de gare, ce qui aurait enclavé, en tout cas, Clichy-Montfermeil.
Désenclavé.
Désenclavé, plutôt. Et finalement, ça ne s'est jamais fait. Donc, quelque part, on s'est retrouvé bloqué, coincé là, dans ces bars d'HLM. On pensait vraiment qu'il y aurait une ouverture, en tout cas, sur Paris ou sur les autres banlieues. Et à un moment donné, on s'est retrouvé isolé.
Dans 365 jours, vous filmez des revendications, par exemple, en effet, des lieux pour jouer, pour les enfants, de la verdure. Il y a des adresses aux personnages, aux personnes politiques, aux maires, à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'égalité, pourquoi est-ce que dans ces quartiers-là, nos enfants jouent forcément, ils sont voués à jouer dans des voitures abandonnées et dans des parkings, alors que dans d'autres endroits, il y a de la verdure et il y a des parcs.
Ce qu'on ne comprend pas, et c'est vrai, dans le film, on le voit, c'est que les bosquets, ça représente 3% du territoire à Montfermeil. Et tout le reste, c'est des zones pavillonnaires. On se dit, c'est pas normal. Là, on se retrouve, nous, bloqués là, parmi toutes ces tours de béton, où il n'y a pas de terrain de jeu, où il n'y a pas d'actifs, il ne se passe rien, mais vraiment. Alors que tu as juste à traverser une rue, aller au centre-ville ou ailleurs, et là, c'est tout de suite, il y a de la verdure, il y a plein d'activités, il se passe plein de choses. Donc on le voit, on voit qu'il y a une différence. Depuis le plus jeune âge, on voit qu'on est isolé, qu'on est mis de côté depuis qu'on est gamin. Moi, j'ai un souvenir, j'avais 5-6 ans déjà avec l'ancien maire de Montfermeil, il interdisait aux enfants, aux fils d'immigrés d'aller à l'école. Déjà, dès le plus jeune âge, on avait ce truc où
d'aller à l'école, c'est obligatoire l'école dans la République française.
Lui, il refusait aux enfants d'immigrés d'aller à l'école. Ça avait fait un scandale, après ça, on en avait parlé, mais déjà en 85-86. Déjà, dès le plus jeune âge, on savait que... On vivait dans des conditions pas tout à fait normales.
C'est-à-dire vous étiez des citoyens, pas exactement des citoyens français, des citoyens de seconde zone.
Par contre, nous, on s'est toujours considérés comme des citoyens français, parce qu'on est né là, on est français, mais pas traités comme tels. C'est vrai qu'on s'est toujours un peu senti à l'écart. Même quand on allait à l'école, on se retrouvait à l'école contre gens de la cité.
Et en même temps, sur cette question politique, dans le film 365 jours, il est question du vote, il est question de prendre sa carte électorale, il est question de réunions où on incite les jeunes à prendre la carte électorale. Tout le monde applaudit des deux mains, c'est super, et puis il y en a un qui lève la main et qui dit d'accord, mais pour qui ?
Exactement. C'est vrai que souvent on nous bassine, arrêtez d'être violent, arrêtez, à un moment donné, il faut rentrer dans les cordes, faut monter des associations, créer des associations, il faut militer, il faut aller chercher les cartes d'électeurs, il n'y a que comme ça vous allez vous faire entendre, il n'y a que comme ça vous allez faire bouger les choses. Finalement, on l'a fait. On s'est mobilisé, on s'est intéressé à la politique, on a monté des associations, même moi pour ma part, avec des potes, on a monté une liste électorale où je me suis présenté face au maire de Montfermeil. Bon, on a perdu, mais en tout cas, il y a une vraie mobilisation qui a été mise en place. Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas vraiment fait changer les choses, quoi.
Pourquoi ?
Comme elle explique, on vote pour qui ? Qui nous représente ? Qui est prêt à venir défendre nos idées aujourd'hui ? Pour l'instant, on n'a pas trouvé de candidat prêt à s'intéresser, en tout cas, à nos problèmes.
Pourquoi ?
Bonne question, je ne sais pas.
Il y aura désormais un rosier blanc près de la stèle qui rend hommage à Zied et Bouna, les deux adolescents morts électrocutés après avoir été poursuivis par la police. C'était il y a 2 ans, mais à Clichy-sous-Bois, personne n'a oublié. Ils étaient tous là ce matin, les officiels, les enfants de la cité, les jeunes, les parents et Guy Bedos. L'artiste a demandé qu'on oublie qu'il était une personnalité. Guy Bedos, défenseur des droits de l'homme, venu simplement pour dire son émotion de père et sa colère face au racisme, à la pauvreté et aux inégalités. Devant la foule, une banderole affirme « Zied et Bouna sont morts pour rien ». Près de la stèle couverte de roses blanches, le père tente de dire quelques merci avant de s'effondrer en sanglots. Les sœurs, les amis remercieront à leur tour tous ceux qui se sont mobilisés. Et après un rap, c'est une prière qui va s'élever dans l'air glacé de Clichy-sous-Bois. Les mains s'ouvrent, les têtes se penchent. Chacun garde au fond du cœur la mémoire des deux ados. Un cœur où parfois gronde aussi la colère. Une colère que personne à Clichy-sous-Bois ne voudrait voir enflée. C'est à travers le calme qu'on pourra prouver notre amour à Zied et Bouna, a lancé le président de l'association Au-delà des mots. Il y a 2 ans, c'était aussi les émeutes de banlieue. Et ça non plus, à Clichy-sous-Bois, personne ne l'a oublié.
Un reportage diffusé sur France Inter, il y a 2 ans, c'était en 2007 que parle cette journaliste. On est 11 ans plus tard. La question de l'oubli, à la fois de Zied et Bouna, et à la fois des émeutes de banlieue dont on a parlé et qui ont eu lieu qualifiées comme telles en 2005... Sont-elles oubliées, l'Adjli ? Ont-elles eu des conséquences ? On parlait de politique à l'instant. Est-ce que c'est un levier possible ?
Oublié, je dirais non, parce que c'est quand même un drame qui nous a tous marqués, tous traumatisés. Ce qui s'est passé, c'était dramatique. D'autant plus qu'on connaissait les victimes, qu'on connaissait la famille des proches. Donc c'était un drame qui nous a tous marqués, et ça, on ne peut pas l'oublier. Et c'est vrai que 10, 11, 12 ans après... Est-ce que ça a vraiment changé ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une avancée ? Bah, qu'est-ce qu'on se dit ? Bah, 10 ans après, déjà, les policiers sont relaxés. C'était vraiment pas facile, ça, quand on a appris le verdict que les policiers étaient relaxés, alors qu'on avait mis, en tout cas, tout le monde a mis beaucoup d'espoir en la justice. On s'est dit, bon, peut-être que pour une fois, la justice allait faire son travail correctement. Et finalement, au bout de 10 ans, on se rend compte que les policiers sont relaxés. Donc, parce qu'on se dit, ça change pas, quoi. Les policiers, ils ont vraiment tous les droits. Aujourd'hui, ils peuvent venir tuer les gamins. On fait traîner l'affaire, voilà, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et au bout de 10 ans, ils sont relaxés, ils sont pour rien. Et c'est dramatique. Et je me dis, 10, 12 ans après, ça continue. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a encore l'affaire Adama. Pareil, Adama, c'est pareil, on s'acharne sur sa famille. Je pense que le procès aura lieu peut-être dans 5 ans. 5 ans, on va relaxer aussi les policiers. Et l'affaire Théo, c'est pareil, c'est toujours, on a l'impression que... On a l'impression qu'ils sont intouchables, des fois, c'est ce qu'on dit. Ils seront jamais condamnés, quoi. Malgré le fait qu'il y ait des morts, malgré les faits, parce que c'est quand même dramatique, quoi. Il y a quand même des morts, c'est pas rien.
Donc ça veut dire que le cercle vicieux, puisque ces violences entraînent des violences, entraînent parfois des émeutes, des manifestations, il est loin d'être arrêté.
Ben non, il est loin d'être arrêté. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. C'est toujours pareil, c'est l'histoire qui se répète. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Quand on reprend là, ces 30 dernières années, depuis la marge des beurs jusqu'à aujourd'hui, en vrai, il n'y a rien qu'à bouger, mais il faut le dire. Il n'y a rien qu'à bouger. En 30 ans, les politiques, mais zéro. Et je mets vraiment la faute sur les politiques, parce que c'est à eux de trouver des solutions. À un moment donné, ils sont élus, ils sont payés pour trouver des solutions, mais que dalle. En 30 ans, ils ont trouvé aucune solution. Et ce que je dis depuis les émeutes, le seul truc concret où je peux le dire, parce que c'est le plan Borloo, le plan de rénovation urbaine. Voilà, ils ont décidé en tout cas avec les chemins fermés, il y a le plus gros plan de rénovation urbaine qui a été mis en place. Pratiquement tout a été détruit, ils ont reconstruit des nouvelles tours, ils ont reconstruit des nouvelles routes, il y a le tramway qui arrive, il y a le métro qui arrive. À ce niveau-là, il y a quand même un changement, faut le dire. Mais mis à part ça, il y a rien, mais que dalle, rien n'a bougé. Mais vraiment, je le dis, et voilà, la responsabilité, c'est les politiques. Ils sont toujours là à vouloir mettre en place des plans sur les banlieues, je ne sais trop quoi, les plans Marshall, les banlieues, mes couilles, pardon. Mais finalement, il y a rien. Il n'y a rien qui bouge.
Eh bien, peut-être on les enverra en salle, voir votre film, Ladjli. Il s'appelle Les Misérables. Il n'y a même pas besoin d'aller en salle parce qu'il est visible en ce moment sur Internet. Il sera bientôt long métrage. Il sera, lui, visible en salle. Il est en compétition pour les Césars 2018, ainsi qu'un documentaire que vous avez co-réalisé qui s'appelle À voix haute. Et on ne s'arrête pas là. En mai, un documentaire sortira, Portrait d'une génération, avec le photographe JR. Ce sera au cinéma. Et en préparation, un autre court métrage, Mystère sur les femmes de 30 ans. Vous reviendrez nous en parler ?
Avec grand plaisir.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?
Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? Toute cette jeunesse, toute cette énergie, toute la jeunesse en banlieue qui a envie de faire les choses, qui a envie de s'en sortir, qui ne demande qu'à être écoutée. Et ça me donne de l'espoir.
Par les temps qui courent, vers où porter son regard ?
Vers où porter son regard ? Sur cette jeunesse en banlieue. C'est important de miser sur cette jeunesse, parce que j'estime qu'il y a une énergie qui est incroyable en banlieue. Il y a des talents incroyables, il y a des jeunes qui réussissent dans plein de secteurs différents, et c'est important de miser en tout cas sur nos jeunes.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait plus rire ?
La politique en général.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Aujourd'hui au son, c'était Bruno Mourlon, à la réalisation Lise Marie Barré. Jeanne Léos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre pensent et préparent cette émission avec moi, et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
Sabotage. Et en deux temps, trois mouvements aux quatre coins des cinq continents.